bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Béraud. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal, merci de m'accueillir.
Toujours Chief Security Advisor à la Direction Technique et Sécurité.
Oui.
Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Azure AD Domain Services.
Voilà, donc un petit écho à AD Domain Services, je pense que...
Voilà, Active Directory tel qu'on le connaît depuis des années,
mais cette simplement, fois-ci. Ou WSAD, plein d'appellations, mais cette fois-ci, peut-être quelque chose de simple, activable dans le cloud, mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà, on connaissait Active Directory, Domain Services, on connaît Azure AD.
Voilà, et maintenant, voilà, ça, Kesako. Hein.
Les deux se rejoignent pour donner naissance à ce nouveau service.
Oui.
Donc, d'où on part et pourquoi cette nouvelle offre, pourquoi ce nouveau service?
Ah, aujourd'hui, on est, alors après, chacun à son rythme, à sa vitesse, en fonction de ses projets, de l'opportunité, de la pertinence. Mais depuis quelques années, je pense que le cloud s'installe dans le paysage avec un certain nombre de bénéfices à la clé ou en réponse à un certain nombre de contraintes. C'est le vieil adage, toujours faire plus avec moins quelque part. Donc dans ce contexte-là, par exemple, et c'est un peu ce qui va nous animer dans cette présentation, la dimension infrastructure as a service, IaaS, la possibilité de mettre des machines virtuelles dans le cloud, c'est souvent une capacité de débordement déjà par rapport à une saisonnalité par exemple, mais aussi déployer rapidement un projet, le tester dans un environnement de type DevOps. Donc, c'est ne serait-ce que ce point d'entrée. Après, on peut monter quelque part dans la hiérarchie ou la gamme. Je ne sais pas s'il y a une valorisation entre les types de cloud, entre une typologie de type IaaS, PaaS, SaaS ou une combinaison de l'ensemble. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire et tout le monde peut s'accorder au travers du titre qui est globalement, il y a un mouvement vers le cloud et le cloud est sous des formes diverses, encore une fois des rythmes divers, dans une dimension vraisemblablement hybride pour un certain nombre d'années, mais est là. Donc on ne va peut-être pas forcément revenir, Pascal, sur les bénéfices, je pense qu'aujourd'hui...
Oui, on les connaît, on les connaît tous.
On les connaît, donc, mais typiquement dans la dimension économique et évolutive, le plus avec moins, dans cette capacité à répondre. Les associations auxquelles je faisais référence, avec des couplages, le IaaS c'est le point d'entrée, mais intégrer du PaaS, et le PaaS c'est aussi moyen de faire des économies importantes par rapport à du IaaS, c'est aussi la capacité de bénéficier d'augmentations en termes de services prêts à l'emploi qui peuvent être super pertinentes pour intégrer des mobiles par exemple, envoyer des notifications par rapport à ces mobiles, mais ou tout autre type de service.
Donc la question qui se pose, c'est comment passer toutes nos applications, enfin les applications qui en ont besoin, dans ce nouveau paradigme cloud.
Alors, il y a la version simple que tu as en termes d'affichage. Je m'abonne à une application SaaS du marché. Si en termes d'identité, on parlait d'Azure AD, Azure AD, c'est la capacité d'offrir une pré-intégration avec toute une galerie d'applications, plus de 2500 applications SaaS du marché à ce jour, la capacité de rajouter de façon personnalisée ses propres applications, avec dans, par exemple, l'abonnement premium aussi une capacité de pouvoir avoir une façade de scheme pour un provisioning automatique, donc plein de capacités d'intégration. Ça nous renvoie peut-être aussi au deuxième élément qui est si je ne suis pas dans l'application SaaS, c'est peut-être écrire mon application, mais bon, dans la version toujours faire plus avec moins, on n'est pas forcément dans ce credo. Donc on est peut-être dans la capacité d'aller prendre l'application telle qu'elle fonctionne dans un data center virtualisé sous forme de machine virtuelle et puis l'intégrer directement, la monter dans le cloud et faire en sorte de faire du IaaS et qu'elle fonctionne comme telle.
Et quand on fait ça, notre application qui était dans notre data center, elle a des attaches, elle se connecte à des choses, elle utilise des services.
Quand on parle de l'authentification Windows intégrée avec Active Directory, DDS, WSAD, peu importe l'acronyme, Active Directory, comment on reproduit ça?
Exactement.
Donc ce n'est pas forcément aussi simple parce que comme c'est mentionné dans la diapo, AD Domain Services depuis un certain nombre d'années, depuis la fin des années 90, ça ne nous rajeunit pas Pascal, mais apporte un certain nombre de services. Ça a été le fait de rejoindre comme machine membre le domaine et puis du coup de pouvoir bénéficier justement de toutes les capacités de l'authentification Windows intégrée. C'est la capacité en termes de gestion d'appliquer des stratégies de groupe. On l'oublie des fois au travers du vocable authentification Windows intégrée, mais Active Directory, c'est avant tout un annuaire LDAP qui est interrogeable avec des interfaces LDAP. Donc c'est aussi, bah, si on le souhaite, s'appuyer sur cet environnement pour faire de l'authentification LDAP, pour lire, écrire, requêter d'une façon générale en LDAP au-delà de cette authentification. Puis, l'authentification Windows intégrée, on l'a souvent en dimension Kerberos, mais c'est aussi ben, pour des applications plus anciennes. C'est aussi NTLM, NTLM V2, toute l'historique autour d'NTLM. Donc finalement, quand je veux prendre mon application, fonctionne, quand bien même j'aurai un fonctionnement sous forme de machine virtuelle, oui, j'ai un passage, un chemin qui est simple sous forme de machine virtuelle, c'est comment je reproduis, comment je fais en sorte que ma machine virtuelle sur son réseau virtuel retrouve finalement tout ça. C'est finalement le problème qui va se poser à tout un chacun quand on va se trouver dans une démarche de ce type.
Exactement. Donc.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu nous offres un paysage qui n'est pas forcément des plus simples, si j'en crois la diapo que tu affiches, Pascal. Parce que d'un côté, réoffrir cet attachement, c'est garder l'attachement. C'est ce que tu nous proposes, j'imagine, avec la passerelle VPN, typiquement.
À gauche, oui.
Donc là, ça veut dire que, avant que je monte ma machine, ça veut dire que d'un point de vue configuration de l'environnement Azure, il faut que je configure une passerelle VPN qui permette en fait d'offrir la visibilité de mon environnement qui se trouve sur site.
C'est pas une problématique nouvelle, c'est une problématique de multisite dans une architecture Active Directory.
Et du coup, ça ramène à toute cette configuration. Au-delà de je déploie potentiellement ou pas et je fais un nouveau site. Un Active Directory sous forme de machine virtuelle dans Azure, soit c'est effectivement un déploiement complètement autonome, mais si je veux garder tout cet environnement, on est dans une architecture multisite, comme tu le mentionnes fort justement, avec toute la configuration de la réplication en multisite. Donc on est dans des choses qui sont pas forcément simples, c'est documenté, il y a un certain nombre d'articles, de scripts intéressants qui sont disponibles sur nos sites, on fera en sorte de les communiquer avec la présentation pour ce type de configuration, mais bon, c'est pas quelque chose qui s'improvise, qui demande un peu de temps, des investissements éventuellement complémentaires si on est volontairement dans la partie gauche du slide, donc rien qui permette potentiellement de répondre de façon très très simple à ce que l'on souhaite faire ici.
Donc notre solution, déjà elle part du principe également qu'il y a déjà des choses qui ont été faites depuis que Azure AD existe, c'est de la synchronisation entre notre AD local et puis l'Azure AD dans Azure.
Oui, tout à fait. Donc le but, c'est de plus en plus, pour les entreprises qui sont dans cette configuration, faire en sorte que cet environnement hybride et le pontage entre cet environnement de facto hybride soit le plus transparent possible, finalement arriver à virtuellement un répertoire, même si ce répertoire s'articule entre un Active Directory en local et un Azure Active Directory dans le cloud, mais pour l'entreprise, c'est son répertoire, peu importe finalement la répartition, et je pense qu'on a franchi un grand pas, notamment en termes de synchronisation avec Azure AD Connect, qui permet de faire la synchronisation montante, potentiellement dans la répartition des services, dans cet annuaire virtuel unique ou unifié, la possibilité de répartir les services en fonction de l'endroit où c'est le plus judicieux ou en fonction des capacités offertes. Donc potentiellement, si on a un abonnement premium, une capacité d'avoir également une synchronisation descendante, si par exemple on confie à Azure Active Directory la capacité d'enregistrer les appareils, par exemple, pour faire du contrôle d'accès conditionnel. Si on souhaite faire de la fédération, bien avec ADFS en particulier, Azure AD Connect intègre complètement la configuration, le déploiement de l'environnement ou permet de le reconfigurer. Si j'ai d'autres serveurs de fédération, ça suppose que je le fasse en dehors, mais si je suis dans ce cadre-là, j'ai un seul outil qui permet de tout faire et puis toujours avec un abonnement premium, avec Connect Health, la capacité de surveiller non seulement la partie fédération, mais désormais également la partie synchronisation. Donc faire en sorte que tout ça, à partir du moment où c'est déployé et fonctionne, vive sa vie, simplement que les correctifs qui doivent être appliqués le soit. Donc on a effectivement cette synchronisation, pourquoi passer par un VPN, on a tout.
Exactement. Même les écritures en arrière, des changements de mot de passe, par exemple.
Donc potentiellement, nos utilisateurs, on les a, et je parlais de la fédération, mais sans faire de la fédération, on a la synchronisation de H2H de mot de passe. Voilà. Donc en fait, on peut utiliser le même mot de passe des deux côtés. Donc c'est la proposition, c'est peut-être d'utiliser déjà cette infrastructure, cette synchronisation pour recréer un Active Directory like comme celui qu'on peut avoir on-prem.
Et donc, c'est l'objet de Azure Active Directory Domain Services.
Exactement. Donc, le but de Azure Active Directory Domain Services, c'est de virtuellement, en fait, émuler toutes ces capacités que l'on a passées en revue juste avant de ce qu'offrait ADDS, et les émuler le plus proche possible. Donc, aujourd'hui, la dimension, par contre, à l'exception de je rejoins un domaine, la dimension écriture va être absente aujourd'hui. Donc, si je suis dans la dimension lecture, je vais avoir toutes les fonctionnalités. Donc, l'idée, c'est de proposer la capacité de rejoindre un domaine, de pouvoir bénéficier de l'authentification Windows intégrée, NTLM, Kerberos, de pouvoir faire de l'authentification LDAP, de pouvoir faire du requêtage LDAP, de pouvoir appliquer des groupes policy. Alors, on sera limité à une groupe policy par rapport aux utilisateurs et aux computers dans un premier temps, donc on a des petites restrictions. On n'aura pas de capacité d'extension de schéma dans la version actuelle, donc il y a des petites limites qui viennent s'appliquer ici et là, donc il va falloir vérifier au-delà de la simplicité que ça correspond bien à ce que fait l'application, mais c'est un premier pas qui me semble intéressant et pertinent dans ce chemin d'intégration et de déplacement facilité vers le cloud. Et puis, au cours du temps, les fonctionnalités iront en croissant pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus près possible de ce qu'est en fait Active Directory en local.
Super.
Donc, tu veux voir une démonstration, tu veux voir comment ça se passe.
Voyons concrètement un petit peu comment ça se passe.
Comment ça se passe.
Alors,
qui dit Azure Active Directory.
Si j'appuie sur le bon bouton, c'est mieux.
Donc ça veut dire qu'on va configurer les choses dans Azure Active Directory. Donc pour configurer cet environnement, quand on rejoint un domaine, généralement, il y a des personnes qui sont administrateurs. Donc on n'a pas aussi la notion de, on ne va pas avoir la notion d'administrateur de domaine d'entreprise. On va avoir un groupe spécial à créer pour dire en fait quelles sont les personnes qui sont administrateurs des machines qui vont rejoindre en fait ce domaine virtuel quelque part.
Aujourd'hui, c'est la preview, c'est
oui, c'est une version préliminaire.
Et ça nécessite du Azure AD Premium.
Aujourd'hui, ça nécessite un Azure Active Directory.
D'accord.
Donc, il faut créer un groupe. Alors, il faut créer un groupe, c'est la version très souple aujourd'hui. Il faut créer un groupe qui a un nom particulier qui s'appelle ADDC Administrator.
D'accord.
Il faut que ça soit strictement ce groupe-là. Cool. Donc, il faut créer ce groupe. Et à partir du moment où on a créé ce groupe, il suffit de mettre les utilisateurs du répertoire Azure Active Directory, que ce soit des utilisateurs au niveau Azure Active Directory ou des utilisateurs Active Directory qui auraient été synchronisés au travers, par exemple, d'Azure AD Connect, pour dire en fait quels sont les utilisateurs qui sont membres en fait de ce groupe et qui auront des droits d'administrateur en fait sur les machines qui rejoindront en fait ce domaine. Donc ça, c'est la première opération. Et une fois qu'on a fait cette opération, on a dit c'est simple. Donc effectivement, oui, c'est simple. On a un petit bouton ici qui consiste à activer les services de domaine.
On peut faire plus simple.
Donc, alors après, on va te demander un petit peu des choses. Donc dans la pratique, on a un nom de domaine par défaut qui est celui du domaine. On peut changer ce nom. On peut, par exemple, pour reprendre des habitudes, on peut dire c'est un contoso.local. Et comment va se matérialiser finalement cette infrastructure de contrôleur de domaine virtuel? En fait, ces contrôleurs de domaine virtuel vont se trouver matérialisés sur un VNet. Donc on propose directement par rapport à l'abonnement, par rapport aux VNet qui sont déclarés dans la configuration, directement une liste en fait des VNet qui sont susceptibles de recevoir cette configuration. Donc aujourd'hui, à date, ça suppose par contre pour un répertoire Azure Active Directory, le point de terminaison, enfin ce qui correspond au point de terminaison d'un KDC, pour ainsi dire, ne peut être instancié que dans un seul VNet. Après, on peut toujours configurer de la configuration de VNet à VNet hein, pour faire en sorte que finalement les contrôleurs de domaine et le domaine soient visibles dans d'autres VNet. Mais on rentre dans la configuration de VNet à VNet. Mais la contrainte aujourd'hui est de dire c'est quelque chose qui va s'instancier dans un seul VNet et on aura en fait un point de terminaison. Les enregistrements vont se faire également par rapport à ce VNet. En termes d'enregistrement DNS, on aura, pour de la redondance, en fait, deux adresses au sein de ce VNet qui correspondront virtuellement à deux contrôleurs de domaine. Et ensuite, bah, c'est une vue de tous les utilisateurs qui sont dans le répertoire Azure Active Directory. Okay. Alors, ça prend une quinzaine de minutes. Hein, donc, comme en général, la mise en place, donc comme on veut faire un petit peu plus vite, ce que j'ai fait je, dans un préparé. Autre répertoire, voilà, j'ai déjà préparé.
Le DNS, le serveur DNS donc pour mes clients va venir par le DHCP d'Azure.
Voilà, donc tu vas le voir ici dans la pratique en fait. Donc voilà, j'ai fait la même chose. Donc là, je l'ai configuré sur le nom de base. C'était le VNet de tout à l'heure. Et en fait, mes deux contrôleurs, donc toi, tu retrouves des choses avec l'adresse réservée, si tu te souviens, dans les VNet, hein, en 4. La première adresse disponible, ouais. Bah là, c'est typiquement ce qui va être pris, toi, 4 et 5. Et c'est dans le VNet, en fait, AAD, DS, VNet. Je faisais preuve d'une imagination restreinte ce matin. Donc, si on va aller voir le VNet, une fois qu'on a fait ça, donc voilà notre VNet. Et au niveau de sa configuration, bah, ce qu'il faut rajouter, c'est simplement, d'un point de vue DNS, en fait, c'est ces deux entrées. Pour notre domaine.
Ah, on doit l'ajouter.
Voilà, ça on doit
d'accord,
l'ajouter.
Okay, d'accord.
Donc ça on doit l'ajouter. Sinon, ben, j'avais fait la configuration, si je reviens à mon Azure Active Directory, donc c'était Litware, au niveau du groupe, donc on retrouve en fait ce groupe, un certain nombre d'utilisateurs, dont le dernier qui me correspond, qui ont des droits d'administration avec des comptes dans le cloud ou synchronisés, qui est en l'occurrence celui-ci.
Ouais.
Si je regarde, je liste rapidement les utilisateurs du domaine, parce qu'on va aller les revoir, donc j'ai une série d'utilisateurs. Donc une fois que j'ai fait ça, la dernière opération que j'ai à faire, si je suis dans un tenant qui est de type cloud only, ce qui doit être fait pour que les utilisateurs puissent se connecter, donc les utilisateurs qui sont déclarés dans ce répertoire puissent se connecter, il y a une opération préalable qui est nécessaire, qui est de changer son mot de passe. Donc le moyen de le faire, si tu vas sur myapps.microsoft.com. Donc typiquement, je prends ce compte-là.
Donc les utilisateurs qui sont cloud only.
Donc là, si tu es dans un tenant, voilà. Donc là, il faut, c'est tac tac tac. Donc ça veut dire qu'il faut aller au niveau de son profil et il faut faire changement de mot de passe. On change son mot de passe ici et à partir de ce moment-là, on a une connexion. Ils auront une connexion à l'environnement. Si je suis dans la version idéale, qui est ma projection, donc admettons qu'on a mis en place Azure AD Connect. Il faut configurer Azure AD Connect pour faire de la réplication de la synchronisation de mot de passe, qui est en fait le condensé du mot de passe qui va se trouver synchronisé. Ce qui est proposé, donc là j'ai sous forme de machine virtuelle, alors ça peut prêter un peu à confusion, mais qui se veut être l'émanence de mon infrastructure on-prem. Si je prends mon Azure AD Connect, si je prends ma configuration courante, donc je vois qu'ici, j'ai la synchronisation de mot de passe qui est activée. Il y a un petit script qui est fourni par défaut, voilà, qui permet directement de réaliser les opérations de configuration pour vis-à-vis de la synchronisation. La seule chose qui est à rajouter, en fait, c'est le nom des deux connecteurs. Et le nom des deux connecteurs, c'est quelque chose que l'on va trouver dans le répertoire Program File Microsoft Azure AD 5 UI Shell. Il y a un applicatif qui s'appelle Client. Qui est en fait l'émanence de la synchronisation. Oui. Et là, dans le connecteur, en fait, c'est là qu'on va trouver voilà, le nom des connecteurs. Donc, c'est là qu'il faut aller piocher les noms. Puis après, il suffit d'exécuter ce script. Et voilà. Donc, d'un point de vue concret, donc pour les besoins de la démonstration, on va être un petit peu rapide. Ben, je me suis permis de déployer sur ce VNet une machine virtuelle. Et j'ai fait en sorte de rejoindre, alors le plus simplement du monde, hein, j'ai demandé à rejoindre le domaine. En l'occurrence, j'ai utilisé mon compte d'admin qui était filbert@leetware369.microsoft.com, celui qui était dans le groupe ADDC Administrator. J'ai saisi mon mot de passe et la machine, du coup, tu vois, ici, est dans le domaine, en fait, leetware369.microsoft.com. Si je regarde, j'ai installé les outils Active Directory, si je regarde les utilisateurs, tu vois, tu retrouves un petit peu ce que l'on avait dans... Toi, ça te rappelle un peu ce que j'avais de l'autre côté.
Exactement.
Mais dans une vue AD. Mm. Pas Azure AD, mais dans une vue AD. Et ici, j'ai mon ordinateur qui est membre du domaine.
Et on voit les contrôles de domaine également.
Donc, dans les, tu vois, tu as des points de terminaison. Donc, tu vois, il n'y a pas de contrôle.
D'accord.
C'est vraiment deux. C'est deux points de terminaison qui sont disponibles sur le VNet et qui font office. Donc, si je fais... ça risque d'être petit en fonte, mais si je fais un ping du nom de domaine, normalement, je devrais répondre. Hein. Ouais, je ne suis pas sûr qu'on voit bien. Je n'ai pas grossi la fonte, mais... Voilà, en tout cas, le reply se fait. Hein.
Donc, le DNS opérationnel. C'est...
Voilà. Donc voilà pour la petite démo. Bon, après, ben, les outils s'appliquent aux limitations. Je peux pas faire de l'écriture au-delà de je rejoins un domaine. J'ai une GPO computer, une GPO utilisateur. Je n'en ai pas d'autres. Je ne peux pas avoir d'extension de schéma. Mais moyennant quoi, ben, j'ai quelque chose qui est très, très simple.
Ça permet de faire fonctionner des applications.
Exactement.
Eh ben, impeccable. Donc, d'après ce que tu nous racontes, ça a l'air également rentable.
Alors, on essaye d'avoir une tarification pertinente. Après, chacun jugera en fonction de ses usages. Hein. Donc là, on ne va pas se prononcer.
Mais donc, ce sera un paiement à la consommation.
Et voilà, on est dans un paiement à la consommation par tranche, en fait. Donc aujourd'hui, on a de mémoire une tranche pour la version préliminaire qui est 5000 à 25 000 objets. Mais on aura une tranche en dessous, puis les tranches au-dessus, et qui définissent les incréments en termes de coûts. Donc, c'est un paiement à l'usage par heure de fonctionnement, donc on est tu vois, par rapport au scénario DevOps, par rapport au scénario de débordement. Donc on est vraiment dans des choses qui peuvent être alors soit là de façon permanente, dans la volonté de vraiment déplacer dans le temps des charges de travail, ou soit de façon ponctuelle. Alors le ponctuel étant, genre, je disais pour l'instant c'est une quinzaine de minutes, le temps que tout se mette en place, il faut compter 30-40 minutes, mais une fois après 30-40 minutes, on a une infrastructure redondante en place opérationnelle. Donc en tout cas beaucoup moins que s'il fallait faire la même chose à la main ou au travers de templates ARM déployer le contrôleur de domaine, la connexion VPN, etc.
Exactement. C'est compatible donc aux limites dont tu nous parlais
je
à l'instant.
On ne va pas revenir dessus. Hein,
exactement. C'est intégré, c'est-à-dire qu'on est intégré dans ce qui est
avec
notre existant
reste,
AD.
Voilà, AD puis avec Connect. Tout ce que fait Azure AD derrière, Azure AD Connect, et puis toutes les autres capacités. Et on est vraiment dans cette notion de j'ai un annuaire unique ou unifié. Après, chacun l'appellera comme il veut, mais donc voilà, en tout cas la proposition rapidement résumée.
Mais écoute, les capacités, fonctionnalités.
Donc on retrouve ce qui a été dit, hein, mais que chacun pourra relire en fait tranquillement.
Voilà, aujourd'hui c'est disponible dans la plupart des
data centers
d'Azure. Peut-être pas tous aujourd'hui, mais ça va venir.
Et puis les liens.
Une documentation qui est disponible d'ores et déjà, même si c'est de la preview, et qui, ma foi, est pas mal assez complète. Écoute, Philippe, sur ce, je te remercie beaucoup.
C'est moi, cette présentation. De m'avoir l'opportunité de présenter ce service qui, je l'espère, peut avoir un intérêt, faciliter la vie de nos clients et nos partenaires.
Je pense également à un scénario de PR qui pourrait peut-être utiliser ça également dans certains cas. Dans certains cas particuliers.
À méditer alors, Pascal.
À méditer, exactement. Donc, merci Philippe.
Je t'en prie.
Merci à tous et à très bientôt dans une semaine.